VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous, Anastasie Tudiech avec vous. Il est 18h en temps 18h30 en temps universel, minuit et demi à Libreville. Au sommaire de ce 3 février 2017, le Gabon qui va examiner la suite à donner à sa coopération avec l'Union européenne après que celle-ci ait adopté une résolution remettant en cause la réélection du président Ali Bongo. En Angola, le successeur du président Eduardo dos Santos, à la tête du parti au pouvoir, est officiellement désigné. Il devrait, sauf surprise, devenir le prochain chef de l'État. Les 28 pays de l'Union européenne réunis à Malte tentent de trouver une réponse commune à l'immigration. Et puis, escalade verbale entre la nouvelle administration Trump et Téhéran à propos du test balistique iranien. Ne manquez pas notre rendez-vous avec la CAN 2017 et l'actualité économique. Mais tout d'abord, le journal. Le président congolais réagit à la mort de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Joseph Kabila se dit profondément touché par le décès de l'ancien Premier ministre et président de l'UDPS, survenu mercredi à Bruxelles. De son côté, la majorité présidentielle, plateforme politique de soutien à Joseph Kabila, salue la mémoire d'un compatriote qui a marqué l'histoire de notre pays par son combat politique. Mais pour l'économiste et politologue congolais Justin Kankwenda, ce décès vient faciliter la remise en cause progressive de l'accord par la dite majorité présidentielle. Le ton monte entre Libreville et Bruxelles. Le Gabon rejette fermement la résolution adoptée hier par le Parlement européen qui remet en cause la réélection d'Ali Bongo Ondimba. Le gouvernement annonce qu'il va examiner à froid la suite à donner à sa coopération avec l'Union européenne. Les précisions, Morgane Guiriec.
Nous recevons 8 milliards de francs CFA au titre du 11e Fonds européen de développement quand, dans le même temps, d'autres pays reçoivent 400 milliards de francs CFA, a rappelé le porte-parole du gouvernement gabonais Alain-Claude Bilimbinze. Est-ce que ceci justifie qu'il y ait des intrusions intempestives sur les questions de souveraineté, comme l'élection présidentielle? S'est-il interrogé lors d'une conférence de presse. Le gouvernement gabonais entend donc examiner l'accord de pêche avec l'Union européenne. Nous verrons ce que le Gabon gagne et ce que le Gabon perd, ce que l'Union européenne gagne et ce qu'elle apporte, prévient le porte-parole. Le Parlement européen, de son côté, s'inquiète des crises politiques au Gabon et en République démocratique du Congo. Dans le cas du Gabon, les eurodéputés estiment que le scrutin présidentiel du 27 août, ayant abouti à la réélection d'Ali Bongo, manque de transparence, ce qui, à leurs yeux, remet en cause la légitimité du vainqueur. À noter toutefois que la résolution en question est non contraignante.
En Angola, c'est le général à la retraite João Lourenço qui a été officiellement désigné aujourd'hui pour succéder à José Eduardo dos Santos. Le candidat du MPLA aux prochaines élections est un fidèle de la première heure du régime dont il a gravi un à un tous les échelons politiques et militaires. Les précisions, Tatiana Mosso.
Actuel ministre de la Défense et vice-président du Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, il fait partie du premier cercle du pouvoir. Sauf coup de théâtre, cet homme de 62 ans a toutes les chances de succéder au président José Eduardo dos Santos, qui a confirmé qu'il passerait la main à l'issue des élections générales d'août, après 37 ans de règne. Depuis les années 1970, le parcours de João Manuel Gonçalves Lourenço témoigne de sa loyauté sans faille au parti et à son chef. Nourri au marxisme-léninisme, les deux hommes ont étudié dans l'ex-Union soviétique qui a formé pendant la guerre froide les jeunes figures montantes de la décolonisation en Afrique. Le général Lourenço ne sort véritablement de l'ombre qu'en 2014 lorsqu'il accède au poste de ministre de la Défense. Soupçonné de vouloir passer la main à l'un de ses enfants, José Eduardo dos Santos a finalement laissé la place à João Lourenço lorsque plusieurs personnes haut placées dans le parti ont tapé du poing sur la table. Réputé modéré, João Lourenço se présente plutôt comme le candidat de la continuité.
Le président tchadien Idriss Déby Itno a annoncé un nouveau report des élections législatives prévues depuis 2015, faute de moyens pour les organiser. « Quand je dis que nous ne pouvons pas faire des législatives, c'est par manque de moyens. En période de vache maigre, on ne peut rien faire. Quand nous aurons des ressources, nous pourrons organiser des élections législatives », c'est ce qu'a déclaré M. Déby lors d'une conférence de presse. Le président camerounais Paul Biya promet la défaite aux combattants de Boko Haram lors d'une cérémonie d'hommage à 4 officiers morts dans un accident d'hélicoptère. Le combat contre Boko Haram ne se terminera que par sa défaite définitive, a déclaré M. Biya, qui prenait part pour la première fois à Yaoundé à une cérémonie d'hommage aux militaires morts dans le cadre de la lutte contre le groupe extrémiste nigérian. Au Zimbabwe, un juge a ordonné le maintien en détention du pasteur Evan Mawarire jusqu'au 17 février. Le pasteur, qui est l'un des chefs de file de la contestation contre le président Mugabe, a été arrêté mercredi après un exil de 6 mois à l'étranger. Formellement accusé d'incitation à la violence et de tentative de sabotage du gouvernement, M. Mawarire reste en prison afin de permettre un complément d'enquête, a précisé à l'audience la magistrate Elisha Shingano. Le président mozambicain Filipe Nyusi annonce le début d'une nouvelle phase des négociations visant à mettre fin au conflit entre son gouvernement et l'opposition armée. Mi-décembre, les médiateurs internationaux avaient quitté le pays sans parvenir à arracher un accord de cessation des hostilités. Au lendemain de Noël, M. Dhlakama avait néanmoins annoncé une trêve militaire unilatérale jusqu'au 4 mars.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et l'actualité, c'est aussi les dirigeants européens réunis aujourd'hui vendredi en sommet à Malte qui se sont engagés à aider la Libye à lutter contre les passeurs, gage essentiel selon eux pour faire face aux défis migratoires en Méditerranée, en dépit des critiques de certaines ONG. Salwa Jafari.
Nous savons que la situation des réfugiés est dramatique en Libye. Nous devons donc agir en conséquence avec ce que nous avons convenu avec la Turquie, éliminer l'illégalité, mettre un terme à la traite des êtres humains et améliorer la situation des réfugiés.
L'une des premières à faire son entrée au centre de conférence de Valletta, la chancelière allemande Angela Merkel. La déclaration de Malte, publiée à la mi-journée, énumère 10 priorités destinées à briser le modèle économique des passeurs, à sécuriser les frontières du pays ou encore à assurer les conditions décentes aux migrants bloqués dans la région. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, l'avait affirmé avant le sommet, il est temps de fermer la route allant de la Libye à l'Italie. Beaucoup restent néanmoins sceptiques devant l'ampleur de la tâche dans un pays en proie au chaos depuis 2011. L'UE va renforcer un programme de formation des gardes-côtes libyens. Elle se fixe également pour objectif d'améliorer la situation économique des communautés locales en Libye et de coopérer avec le Haut-Commissariat aux réfugiés et l'Organisation internationale des migrants pour assurer de bonnes conditions d'accueil aux migrants.
Salwa Jafari. L'administration du président américain ici aux États-Unis, Donald Trump, a imposé aujourd'hui de nouvelles sanctions à l'Iran pour son programme balistique quelques jours après un test de missile qui a provoqué l'ire de Washington. Jacques Aristide.
Ces nouvelles sanctions, qui ne concernent pas le programme nucléaire de Téhéran, visent 25 personnes et entités soupçonnées d'avoir apporté un soutien logistique aux missiles balistiques iraniens, selon un communiqué du département américain du Trésor. Sur Twitter, aujourd'hui, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, écrit que l'Iran ne déclenchera jamais une guerre, alors que les tensions ne cessent de s'accroître entre son pays et les États-Unis. Et de renchérir, je cite, « l'Iran n'est pas impressionné par les menaces, car nous tirons notre sécurité de notre peuple », fin de citation. Ces remarques du chef de la diplomatie iranienne semblent répondre à un autre tweet du président américain Donald Trump qui affirme ceci: l'Iran joue avec le feu, ils ne se rendent pas compte de combien le président Obama était gentil avec eux, pas moins. Le président américain avait déjà affirmé que rien n'était exclu à propos d'une éventuelle action militaire contre l'Iran. La politique étrangère du président américain a également fait réagir le président français François Hollande, qui a jugé aujourd'hui au sommet européen à Malte inacceptable les pressions de Donald Trump sur l'Union européenne. Il ne faut pas être accepté qu'il y ait, à travers un certain nombre de déclarations du président des États-Unis, une pression sur ce que doit être l'Europe ou ce qu'elle ne doit plus être, a déclaré le président Hollande. Il a aussi mis en garde tous ceux qui seraient tentés en Europe par des relations essentiellement bilatérales avec le président américain.
Toujours ici aux États-Unis, le Parti républicain a définitivement abrogé aujourd'hui une disposition de la loi Dodd-Frank qui obligeait les compagnies pétrolières et minières à rendre publiques les sommes versées aux pays étrangers. Tout cela pour prévenir toute accusation de corruption. La loi Dodd-Frank, que le président Donald Trump souhaite démanteler, a été votée en juillet 2010 sous l'impulsion de l'administration Obama. Elle a créé un arsenal de règles aux États-Unis décidées à prévenir les excès du secteur financier qui ont conduit à la crise que nous connaissons de 2008-2009. Le Parlement européen s'est défendu de toute persécution de l'eurodéputée d'extrême droite Marine Le Pen. Dans un communiqué, l'institution rejette les accusations de la chef du parti d'extrême droite, le Front National, concernant des retenues sur son salaire pour l'emploi douteux d'assistant parlementaire. La candidate à l'élection présidentielle française nie tout abus et a dénoncé un combat politique du Parlement contre son parti. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Place au journal de la Cannes avec Nicolas Pineau.
Bonsoir à tous. Le Cameroun en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ce sera dimanche. Vous le savez, les Lions indomptables se sont logiquement imposés hier soir avec panache 2-0 devant le Ghana à Franceville. Le Cameroun retrouve le sommet de la CAN puisque la dernière finale des Camerounais datait de 2008. Les Lions avaient alors perdu contre l'Égypte. Le Cameroun espère donc décrocher un cinquième titre continental après le dernier obtenu en 2002. Retour sur cette belle victoire camerounaise avec Timothée Donangmaï, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon.
Les Lions du Cameroun ont résisté d'entrée de jeu aux assauts des Black Stars, puis ont peu à peu pris confiance et sont passés à l'offensive. Des efforts récompensés à la 71e minute par un but de Gadeu, puis celui de Bassogog aux arrêts de jeu. Hugo Bros, le sélectionneur du Cameroun, confiera plus tard qu'il croyait rêver.
On a commencé le match avec quelques occasions. Les deuxième mi-temps, à certains moments, on a un peu souffert. Mais là, naturellement, il faut un peu de chance. Et cette chance, nous avons eue au moment qu'on marque le premier but. Le deuxième but, ben, là, le Ghana a tout essayé pour égaliser. Et l'espace était là et on a marqué ce deuxième but. Encore une fois, je suis très content, surtout pour le groupe.
Pour le coach des Black Stars, Avram Grant, les Camerounais ont gagné contre le cours du match. Nous avons tout fait pour être en finale. Nous avons dominé le match en seconde période complètement, a dit le coach Avram Grant, qui a tout de même souhaité bonne chance au Cameroun. Les Lions indomptables, dont on ne vendait pas cher la peau avant cette CAN, croiseront en finale les Pharaons et un style de jeu similaire au leur, avec une solide défense et de fulgurantes contre-attaques. Timothée Donangmaï, France Lille, VOA.
Et retour à présent sur la qualification de l'Égypte qui affrontera dimanche le Cameroun en finale. Vous le savez, les Pharaons et leur maître à jouer Salah ont éliminé le Burkina Faso mercredi au tir au but. Tout de suite, le coup de sifflet de Jules Valentin.
Au-delà du résultat de la demi-finale de Libreville, qui a vu la victoire des Pharaons contre les étalons du Burkina Faso, ce sont surtout les leçons à en tirer qui paraissent pertinentes. Jusqu'à la phase finale de 1996, dans la Nouvelle-Afrique du Sud, la Haute-Volta devenue Burkina Faso avait habitué les observateurs à un statut de figurant inoffensif au grand rendez-vous africain. Le tournant historique s'est opéré lors de l'édition 1998 qui avait vu le pays organisateur atteindre les demi-finales et disputer un match d'anthologie contre le Zaïre. Dès lors, la création d'écoles de football performantes a permis à ce pays, qui servait jusque-là de vivier au football ivoirien, de développer une dynamique favorable à la réussite des jeunes dans les catégories correspondantes, avec comme débouché naturel l'éclosion d'une génération exceptionnelle finaliste de la CAN 2013. C'est cette même génération qui s'est présentée en favorite face à une Égypte en reconstruction lors de cette CAN gabonaise. Mais le dicton le répète, les grandes équipes ne meurent jamais. Malgré une domination territoriale et offensive des étalons, les Pharaons qui ont eu le culot de mener au score ont conduit la belle équipe burkinabé jusqu'à l'épreuve fatidique des tirs au but, perdu devant un monument de la formation intemporelle du Nil, le gardien El Adare. Nous retenons que la logique a sa réalité, mais la symbolique historique a la sienne. L'Égypte, en finale, attend d'affronter un de ses concurrents au palmarès, le Cameroun, pour le bouquet final. À bientôt.
C'est la fin de ce journal de la CAN. Retrouvez-nous sur notre page Facebook et notre site voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité économique du continent, c'est la Minute Éco. Et ce soir, elle est présentée par Eric Manirakiza.
Au Zimbabwe, manger de la viande, des céréales, du riz, des pommes de terre, du poisson ou utiliser la margarine nécessite désormais de mettre la main à la poche. Ces denrées alimentaires de base sont frappées par une TVA de 15%. Ceci rend la vie difficile aux pauvres. Le pays est confronté à un chômage croissant, favorisé par un secteur agricole en difficulté. La RDC devrait atteindre environ 5% de croissance économique entre 2017 et 2018, selon la Banque mondiale. Une hausse du prix des matières premières et l'expansion de l'agriculture et des services stimuleront ce regain. En 2016, le pays a enregistré un rebond de 2,7%. Le 28e sommet des chefs d'État de l'Union africaine a confié au président Mahamadou Issoufou du Niger la tâche de diriger le processus de la mise en place en Afrique de la zone de libre-échange continental. C'est pour créer un espace commun pour les 54 pays du continent. L'initiative regroupera aussi les autres espaces économiques communautaires comme la CEDEAO, la CEAC, la SADC, la CAI et le COMESA. Monsieur Issoufou doit rendre son rapport en juin prochain, en marge du 29e sommet des chefs d'État de l'Union africaine.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Anastasie Tudiache avec vous. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Les dossiers du jour. Deux décennies après le début des exactions commises par l'armée de résistance du Seigneur dans le nord de l'Ouganda, la LRA ne possède plus qu'une fraction de son ancienne force, soit environ 100 combattants actifs dans certaines parties de l'Afrique centrale. Mais les communautés les plus exposées aux attaques dans les régions reculées de la République centrafricaine et le Congo dispose de peu de protection. C'est un reportage de Zach Badorf, présenté par Morgane Guériec.
Dans le village de Fenzan, il n'y a pas de police, pas d'armée, ni de soldats de l'ONU. La région fait régulièrement l'objet d'attaques de bandits et de groupes armés, tels que l'armée de résistance du Seigneur. Nous nous sentons abandonnés par le gouvernement, même si nous sommes à seulement 10 km du centre-ville. Le gouvernement ne pense pas à nous. Ici, il n'y a pas de réseau de téléphone cellulaire, mais un projet financé par l'USAID a trouvé un autre moyen pour les collectivités de communiquer et de se préparer aux attaques. Les villageois gardent un œil sur les mouvements des groupes armés. Ils apportent l'information au chef du village, qui la passe alors sur l'opérateur radio Judicial Mbatisungwe. Il envoie et reçoit des informations de sécurité grâce à une radio haute fréquence alimentée à l'énergie solaire, connectée aux opérateurs de radio dans les communautés environnantes. Avant le projet, les communautés étaient très isolées. Dans le passé, l'ennemi nous prenait par surprise. C'est désormais plus difficile pour eux. Nous pouvons nous préparer. Le réseau d'alerte précoce relie 32 collectivités dans la RCA et 62 autres en République démocratique du Congo. Lorsque l'information arrive dans le village, la communauté a déjà identifié les endroits où les femmes et les enfants vont se cacher. Les hommes surveillent pour s'assurer que tout est OK et après vérification, ils rentrent. Les résidents mettent de côté leurs effets personnels et de la nourriture afin de ne pas tout perdre au cours d'un raid. Jean-Paul Pigboroano aide à la diffusion des informations sur les ondes FM.
Même si la LRA finisse, ces plans de protection communautaire enseignés par le projet vont nous servir pour toujours.
Ce réseau d'alerte précoce a déjà atteint près de 300 000 personnes. Il n'empêche, les troupes ougandaises et américaines stationnées dans la région n'ont toujours pas réussi à capturer le leader de la LRA, Joseph Kony, recherché depuis 2005 par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, réunis au sommet de Malte aujourd'hui, ont formalisé leur intention de fermer la route migratoire en Méditerranée. L'opération devrait passer par une coopération avec les autorités libyennes. L'an dernier, 180 000 migrants, principalement d'Afrique subsaharienne, sont arrivés en Italie en passant par la Libye. Sur ce nombre de personnes ayant tenté la traversée, plus de 3 000 sont mortes noyées. L'Union européenne veut ainsi aider à renforcer les forces sécuritaires libyennes, mais son projet fait débat, n'est-ce pas Jacques Aristide ?
La République de Malte est au cœur de la route migratoire en Méditerranée centrale et occupe actuellement la présidence tournante du Conseil de l'UE. Les dirigeants européens s'accordent à dire que le bloc est confronté ces jours-ci à de multiples menaces avec en haut de la liste le flux continu de migrants en provenance de la Libye, thème qui domine leur sommet tenu à La Valette. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a rencontré hier le Premier ministre libyen, Fayez al-Sarraj, et a promis le soutien de l'Europe.
We have discussed this example of our cooperation with Turkey and other countries.
Nous avons discuté de l'exemple de notre coopération avec la Turquie et d'autres pays de la région. Il est temps maintenant de fermer la route Libye-Italie.
L'accord de l'UE avec la Turquie a vu le nombre de migrants diminuer de 80%, mais de voir cette même logique appliquée en Libye, pays sans véritable État ni administration forte, où règne encore le chaos, sera impossible, selon Claudia Gazzini de l'International Crisis Group, s'exprimant via Skype.
Le gouvernement est fragmenté, à peine opérationnel, sans aucune influence sur les forces de sécurité qui ne lui sont fidèles que symboliquement. Il est donc très difficile de reproduire le modèle turc en Libye.
Ce sont pour la plupart des migrants économiques qui effectuent la traversée de la Méditerranée via la Libye. C'est pourquoi l'Union européenne ne devrait pas se focaliser uniquement sur l'amélioration de la sécurité, argumente Claudia Gazzini.
Beaucoup de ces migrants formaient historiquement la main-d'œuvre en Libye et maintenant, ils ne travaillent plus en Libye en raison de la situation économique désastreuse dans le pays. Il faudrait donc que les États membres de l'ONU s'efforcent davantage à aider l'économie libyenne et à créer de l'emploi en Libye.
Des organisations ont mis en garde contre les mesures envisagées par l'UE, des mesures qui, disent-elles, sont contraires aux responsabilités humanitaires de l'Europe. Mais le bloc européen affirme qu'elle va continuer à donner priorité aux valeurs humanitaires, tout en travaillant avec le gouvernement reconnu de la Libye dans le but de ralentir le flux migratoire.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La communauté musulmane du Bénin est très en colère. Le gouvernement a décidé d'interdire les activités religieuses dans l'espace public. Fini la prière musulmane des vendredis, fini le chemin de croix des chrétiens catholiques pendant la période pascale. Ces démonstrations conduisant souvent au blocage des voies et empêchant la fluidité de la circulation. Ginette Fleur Adindé, notre correspondante à Cotonou, nous en dit davantage.
Ceux qui sont prêts à mourir pour cette cause n'ont qu'à lever leurs mains. Rendez-vous vendredi prochain.
C'est cette phrase-là qui a mis en alerte toute la population béninoise. Des personnalités politiques du haut de leur estrade appellent presque à la rébellion. Elles étaient nombreuses à monter au créneau pour dénoncer une injustice, selon leur dire, contre la communauté musulmane.
Personne n'est contre de faire en sorte que nos villes soient plus belles, plus attrayantes. Mais tout le monde critique la manière, la méthode, les propos, la violence, la brutalité et les anathèmes.
Depuis que l'opération de libération des espaces publics a démarré, c'est bien la première fois que les esprits se sont échauffés. Un comité de crise a été mis sur pied pour essayer de contenir la colère des uns et des autres. Le président de ce comité, Abdourahman Salam, penche pour un règlement en douceur du conflit, mais trouve quand même osé le fait que le gouvernement s'en prenne à la croyance des musulmans.
Nous ne sommes pas contre la décision du gouvernement pour, en ce qui concerne l'assainissement des domaines publics. Mais par contre, nous sommes contre l'interprétation que certains bras armés, certains exécutants de cette décision font sur le terrain, parce qu'ils confondent tout simplement une emprise avec une utilisation de l'espace public.
Mais pour le ministre de la Justice, Joseph Diogbenou, le gouvernement n'a jamais interdit une quelconque manifestation de la foi, mais refuse que les espaces publics servent de lieu de manifestation de cette foi.
Ce n'est pas une interdiction de prohiber l'expression de sa foi. Et troisièmement, l'État, c'est aussi de l'ordre. L'État, c'est de la sécurité. L'État, c'est de la propreté.
Pour Abdoulaye Biotiane, le gouvernement fera tout pour que cette crise ne prenne pas des proportions inquiétantes.
La décision de gouvernement est une décision qui vise à améliorer les conditions de vie des populations et en particulier à améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Donc forcément, elle ne peut pas être dirigée contre une communauté particulière.
Ce vendredi, l'appel au non-respect de la décision du gouvernement n'a pas été respecté. Un repli certainement stratégique en attendant la réunion de crise avec le chef de l'État en week-end. Précisons que les autres communautés religieuses ne se sont toujours pas prononcées sur la décision. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Golf FM, Cotonou. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Un nouveau traitement contre le cancer est en cours d'élaboration. Il cible certains cancers extrêmement difficiles à guérir. Et à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le cancer qui se tiendra demain, 4 février, nous vous proposons de faire le point sur ce nouveau traitement avec Dilly Dico.
Les scientifiques des laboratoires de recherche Pfizer, un géant pharmaceutique américain, en partenariat avec AbbVie Stemcentrics, une petite entreprise de biotechnologie, ont développé un nouveau médicament ciblant plusieurs types de cancers agressifs qui se reproduisent de façon occurrente. Le traitement développé par ces deux compagnies marche sur les souris et les singes, et des essais sur l'homme sont en cours. Écoutons Mark Damelin, docteur au laboratoire Pfizer.
We're hoping to,
En gros, nous espérons pouvoir extirper les souches cancéreuses du patient. À l'image d'un jardin que l'on désherbe, il faut s'attaquer aux racines, les arracher afin d'éviter que la mauvaise herbe ne repousse. Nous avons conçu ce traitement de sorte à ce qu'il cible les souches de la tumeur. Nous proposons donc cette chimiothérapie qui détruit ces cellules cancéreuses.
Le médicament a une double approche. C'est un anticorps qui permet de combattre le cancer, mais les scientifiques ont aussi combiné cet anticorps avec un traitement de chimiothérapie basé sur une molécule de protéine. L'anticorps se fixe sur la cellule cancéreuse en développement pour l'empêcher de croître et la chimiothérapie la détruit. Selon le docteur Damelin, ce traitement est une véritable arme pour combattre le cancer.
Cette thérapie fonctionne comme un missile guidé.
Damelin explique que suite aux essais réalisés, près de 30% des patients atteints d'un cancer ovarien réagissent positivement. Il s'agit de patients pour lesquels toutes les autres thérapies ont échoué. Le souhait est que dans l'avenir, ce nouveau traitement remplace la chimiothérapie classique et du fait de sa capacité à cibler, ce médicament devrait être moins toxique et donner lieu à moins d'effets secondaires. Selon les scientifiques, ce traitement pourrait également aider les patients avec d'autres types de cancers, notamment les cancers de la prostate, de l'estomac, de l'œsophage, mais aussi un type de leucémie agressive. Des essais humains plus conséquents devraient démarrer en ce début d'année. S'ils sont concluants, ce traitement pourrait sauver des milliers de vies.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Michel Joseph, à la console, Souleymane Tarawale. Présentation, Anastasie Tudiège. Retrouvez Roger Montou à 20h pour RM Show. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité en continu 24h sur 24.
VOA Afrique, les infos. À Washington.